about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la littérature. Cette émission est préparée par Virginie Leduo et Boris Pino. Prise de son assurée ce soir par Manuel Couturier. Réalisation signée Daniel Fino. Ce soir, Daniel Martin et Étienne de Montetti se font face à notre affiche. L'Amie prodigieuse, volume 3, Elena Ferrante, chez Gallimard. Le Dimanche des Mères de Graham Swift, également chez Gallimard. Et puis Histoire de la violence d'Edouard Louis, édition poche en point. Vers 21h20, Lucine Como nous entraînera dans le petit salon pour parler de bibliothèques idéales. Et puis encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour l'exposition Corps Rebelle jusqu'au 5 mars au musée des Confluences à Lyon. Après L'Amie prodigieuse et Le Nouveau Nom, deux livres désormais disponibles en édition de poche chez Folio, Gallimard publie en cette rentrée de janvier le tome 3 de la saga écrite par Elena Ferrante. Le titre « Celle qui fuit et celle qui reste » traduit par Elsa Damien. Il y aura un quatrième et dernier volume qui s'intitulera « L'enfant perdu » qui sortira en France à l'automne. Si l'on a parlé ici d'Elena Ferrante avec le pseudo-scoop de la révélation de l'identité de l'écrivaine qui a choisi l'anonymat, il faut surtout dire que cette fresque qui débute dans l'Italie de l'après-deuxième guerre mondiale est un phénomène d'édition dans le monde entier qui suit le destin de deux amis qui s'aiment autant qu'elles se détestent, Elena et Lila, nées en août 1944 dans un quartier populaire de Naples. Il faut rappeler ou apprendre à nos auditeurs que cette saga est un long flashback, puisque le premier livre s'ouvre en 2010, alors que Lila a disparu sans laisser de traces, et que Elena, écrivain, va entreprendre le récit de leurs histoires communes et croisées. D'ailleurs, avant de parler de ce troisième tome, messieurs, est-ce que vous aviez déjà succombé à la Ferrante Mania, Étienne de Montetti?
J'avais lu le premier, et puis j'ai passé le deuxième par inadvertance.
Pas par manque d'envie? Le premier, vous avez fait quel effet?
De curiosité. On annonçait effectivement un livre au long cours, et j'ai le sentiment que pour le savourer, il fallait vraiment rentrer dedans comme dans un roman fleuve, ayant besoin de lire d'autres livres, etc. J'ai ajourné et puis je reprendrai quand je serai à ma retraite après avoir lu Saint-Simon. Ben je reprendrai Elena Ferrante.
Daniel Martin.
Ça risque de vous faire un choc quand même de passer de Saint-Simon à Elena Ferrante.
Vous aviez lu les premiers?
Forcément, qu'on s'intéresse à ces livres parce que ça a été un tel succès, surtout à partir du deuxième en France, sachant que en plus le livre est arrivé, on nous disait que c'était un tel succès aux États-Unis. Qui passe pour une forme de label.
Il est rare que la littérature italienne fasse de grandes ventes aux États-Unis aussi.
Oui, bon, on nous parle d'un succès mondial. Et puis surtout, je trouve qu'on parle beaucoup de littérature à propos d'Elena Ferrante. Et moi, je me suis intéressé à cette histoire, bien sûr. Je trouve que sur un plan documentaire, il y a des choses qui sont intéressantes. Cette Italie de l'après-guerre, dans le premier volume, qui est partagé entre les mafieux, les fascistes, les communistes, etc. Ce qui est vrai, ce qu'on a lu. On peut faire référence à un certain nombre de livres de cette époque qui sont très importantes. On sait que l'Italie de cette époque est assez passionnante à tout niveau. Le deuxième volume est intéressant aussi. Je trouve, alors sur cette question des années 60, où on voit arriver effectivement cette question de l'individu, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui vivent dans un milieu très très populaire où tout se fait ensemble, hein, comme très souvent à cette époque et dans ces milieux. Et puis petit à petit, dans les années 60, ces personnes s'individualisent. Je trouve que là, au fond, il y a quelque chose sur les années 60 qui est assez intéressant de ce côté-là. Moi, je trouve que on passe au troisième volume maintenant. Si
bah non, on va faire une petite pause musicale comme vous les aimez, Daniel Martin, avant d'y passer.
Ouais. fai qui tu da sola, è finita fra noi, da un mese l'orgoglio ci consola. Ma dimmi tu come stai, ti vedo un po' giù, sei forse nei guai, o forse è stata colpa mia lasciarti quel giorno andar via. Siamo stati stupidi, impulsivi e fragili, lasciavamo il mondo fuori io e te da soli insaziabili. Quanti giorni inutili persi dentro una bugia. Guardami negli occhi e dimmi se tu ti senti ancora mia, come una volta. Eravamo noi così innamorati e liberi, siamo ancora noi, eterne radici d'alberi, se lo vuoi.
C'est encore nous, chante Toto Cutugno dans la discothèque de Daniel Martin. Le sous-titre de ce troisième volume, puisqu'on y vient, troisième volume de l'Amie prodigieuse et l'Inafférente, cette précision, époque intermédiaire. Pourtant, donc la fin des années 60, début des années 70 qu'on va traverser, c'est quand même une époque de bouleversements sociétaux que nos héroïnes vont vivre pleinement. Alors celle qui fuit, c'est Elena qui va se marier, s'installer à Florence, celle qui reste à Naples. C'est Lilla, vous l'y enchaînez, Daniel Martin, enchaîné.
Oui, parce que sur le titre, il y a déjà quelque chose qui est étonnant, c'est qu'en italien, c'est au pluriel le titre, et en français, c'est au singulier. Et sur celle qui fuit et celle qui reste, en fait, on peut parfaitement inverser le problème sur ces deux personnages. Mais je voudrais en venir à la gamme du livre. Moi, je suis extrêmement surpris de l'abondance de presse qui parle de littérature et de très grands auteurs. Je trouve que c'est du niveau de ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire c'est de la littérature populaire, mais c'est pas du haut de gamme à la littérature populaire. Moi, j'ai immensément
en écriture, oui, en style, oui.
J'ai immensément de respect pour la littérature populaire. Il y a des très très belles choses dans ce domaine-là. Là, c'est plutôt ce que j'appellerais un roman de conversation, c'est-à-dire on y cède ou on n'y cède pas. Mais on peut, alors on peut parler des avantages, des inconvénients, des défauts de ce livre, par exemple, au niveau de la langue et du langage. Il y a plein de choses qui sont extraordinaires. Mais je trouve que c'est un livre qui rencontre pas vraiment l'histoire, ou qui la rencontre d'une manière singulière, c'est dans l'intimité de ces deux femmes. Et là, il y a quelque chose qui est très intéressant, mais qui est, à mon avis, pas assez exploité, et qui me semble être le cœur de ce livre, et c'est pour ça qu'il pourrait s'appeler, l'inassouvissement ou la frustration, je sais pas quoi, ce livre. C'est que ces deux femmes, on constate que dans ces années fin 60, début 70, subissent absolument tout, le travail, les hommes, et ce sont des personnes qui ne rencontrent jamais le plaisir à aucun niveau, que ce soit dans une expression personnelle, professionnelle, que ce soit au lit avec leurs époux et potentiellement leurs amants, puisqu'elles rêvent d'amants, et ce sont des femmes totalement frustrées. Alors peut-être que c'est là où on touche le plus l'époque, mais je trouve que au fond, ce troisième volume est quand même très long. Et quand je dis roman de conversation, ça pépille beaucoup quand même. Parce qu'on se téléphone, plus, on s'aime plus, etc., etc. Moi, j'ai trouvé ça un peu longué, franchement.
On se voit plus, on se retrouve et on se perd.
Je trouve qu'il y a un écart entre la matière de ce livre et cet accueil qui est complètement délirant.
Ah oui, pour une fois, j'ai vraiment bien lu la presse sur ce livre. Effectivement, il y a quand même des dithyrambes très nombreux. Et ce qui m'a le plus surpris, effectivement, sur les qualités d'écriture, stylistique aussi de ce livre, ce qui m'a paru de façon aussi frappante. Alors, on nous dit aussi que après ce grand calme du troisième tome, le quatrième, ça va être quelque chose de très virvoltant, fort. Je redonne la parole après, Daniel, ou pas?
Oui, juste une parenthèse, parce qu'il faudrait qu'on le garde en mémoire.
Alors, je le note,
parler, dites-moi. C'est effectivement la question de la langue.
Alors, la langue, je note. Oui. Maintenant, Étienne de Montetier.
Oui, je crois que le lecteur et les lectrices, notamment, redécouvrent le roman fleuve, le genre de ces romans au long cours, des Martin Dugard, des Jules Romain, avec leur qualité, leur faiblesse, cette convention passée tacitement avec l'auteur qu'on prend énormément de temps à s'immerger dans une histoire où les personnages ont finalement assez peu d'importance, et même que ce soit celle qui fuit ou celle qui reste, Lila et Elena, bien sûr elles sont là, et la narratrice est là, et c'est elle qui mène son histoire, mais c'est beaucoup aussi l'étude des groupes sociaux, effectivement, Naples, le monde des hommes, le monde des femmes, l'entrée de l'une d'elles, Lila, dans une usine de salaison, les rapports sociaux. Alors, il faudrait pas trop réduire le livre à simplement une description sociologique ou politique ou idéologique de l'Italie, mais il y a cette composante-là.
Oui.
Oui, et ça, je pense que ça fait partie du roman fleuve, du roman long cours dans lequel on se glisse. Il semble que les gens soient heureux de ces rendez-vous avec une œuvre au long cours dans lequel on s'installe, dans lequel on est bien et on suit, au fond, la révélation d'une femme au monde et à la société et à l'évolution de la société, de fait, parce qu'on voit naître les premières revendications féministes, etc. Et vous avez raison, Daniel Martin, l'individualisation des personnages qui était très, très longtemps réduit, au fond, à leur appartenance à un groupe.
Ben, vous avez dit en ouverture de propos, Étienne de Montetier, les lecteurs et surtout les lectrices. Alors, est-ce que vous dites cela parce que c'est un écrivain femme, enfin a priori?
C'est un regard féminin.
Avec deux héroïnes féminines.
Oui.
Mais pourquoi ça toucherait plus les lectrices que les lecteurs, du coup?
J'ai le sentiment que c'est effectivement une narratrice féminine qui a un œil féminin, féministe.
C'est d'autant plus important que les hommes le lisent, non?
Ah mais je ne l'interdis à aucun homme de le lire, je l'ai lu moi-même. Il me semble quand même que c'est une approche assez féminine du monde. Et puis, une banalité statistique, c'est qu'en France, beaucoup de lecteurs sont des lectrices par ailleurs. Mmh. Je trouve quand même que c'est une approche effectivement par les femmes. Mais
moi, ça me semble justement, pour le coup, le point positif du projet, finalement.
Ah ben,
que cette part de l'histoire,
seconde
moitié du XXe siècle, soit racontée par les femmes. Là, on est vraiment sur les questions, pour le coup, sociologiques.
Je regarde sur le temps, par exemple.
Daniel Martin.
Si vous prenez les années d'Annie Ernaux, il y a un rapport. C'est une personne qui donc passe toutes ces années en revue. Il y a un point de vue qui est hautement littéraire et qui est politique et qui est très fort, qui est très présent. D'autres auteurs italiens, je pense à Balestrini avec Les Invisibles, qui a parlé de ces années 70 de manière remarquable. Alors les années 70 sont que très partiellement traitées dans celui-ci, puisqu'on arrête vers 75, je crois. Mais souvenez-vous d'Élisée Bataraszi, par exemple, qui a fait ce travail à partir de Naples aussi, qui est un travail extrêmement intéressant. Ce sont des livres qui ont du corps, et moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est pourquoi ce livre trouve autant de succès. Alors, ce que dit Étienne, je crois, c'est vrai, même si on est dans une forme d'attendu. Mais il me semble que c'est un lectorat plutôt féminin qui va sur ce livre. Pourquoi un lectorat féminin va sur ce livre? Je crois qu'il y a un effet de nostalgie aussi, parce qu'on parle aussi d'une époque où finalement on a une relation au travail, peut-être une relation à la société, on a l'impression que les gens avaient leur place. Enfin, c'est ce qu'on attribue à ces époques-là. Bon, mais en même temps, je reviens sur cette question de la frustration, c'est quand même quelque chose, alors au point de vue du féminisme, c'est quelque chose qui est totalement noir, négatif. Alors je ne sais pas ce qui adviendra de la suite, mais enfin la seule échappatoire qu'ont ces femmes, c'est au fond de rêver à un amant, parce qu'elles ont tout en tête, elles connaissent tout l'amant de leur rêve. Alors on va pas dérouler la fin, ça va se passer, ça va pas se passer, mais au fond on est bien dans cette thématique du roman rose, enfin du...
Bon, c'est Madame Bovary, enfin,
oui,
on
est dans les lectures de Madame Bovary.
Oui, non, mais, oui, et en même temps, l'identification à elle, oui.
Oui, et là, je parlais d'Annie Ernaux tout de suite. Annie Ernaux a toujours dit, quand elle était jeune, elle lisait énormément ce type de littérature. Mais je trouve qu'il y a quelque chose là qui est assez curieux. Comment expliquer ce succès autrement, je ne sais pas.
Étienne de Montetti.
Je pense que l'anonymat de l'auteur a créé une sorte de légende qui a contribué à, au moins, intéresser les gens à cette littérature. Ça a été mené... Et on est tellement habitué à la surexposition des auteurs que ce mystère-là a été un des éléments. En France, il y a une assez jolie dimension marketing avec effectivement des photos sépia qui touchent évidemment beaucoup de toute une génération qui certainement se retrouve dans ces images. Et après, je pense que le style de l'auteur, le style romanesque, ce qu'elle a choisi, ce roman fleuve au long cours, tout ce qu'on vient de dire, avec les qualités et défauts, je pense que ça touche un large lectorat.
Et
Daniel Martin.
Je disais qu'il y a un point qui me paraissait très important, c'est la question de la langue. Alors, moi, bien sûr, je n'ai pas lu le texte d'origine. J'aimerais connaître la teneur de ce texte d'origine. Parce qu'ici, il est énormément question des dialectes. Enfin, on sait que la langue italienne, quand on a lu Gadda, je tiens par parenthèse qu'il y a une nouvelle traduction de la Foi Pastis de la rue des Mères qui vient de sortir sous un autre nom, une autre traduction. Gadda paraissait intraduisible justement par ce mix de langues, de langage et d'origine.
Alors c'est que le napolitain est une langue à part entière. Bon. Hein.
Alors ici, on parle beaucoup du dialecte napolitain, on parle d'un italien du nord plus intellectuel, plus normé. Et il y a d'autres langues qui se glissent là. Par exemple, il y a ce qu'apporte le langage informatique, puisque là, un des personnages, moi je ne savais pas que l'informatique avait passionné les Italiens aussi tôt, mais il y a un personnage qui va faire carrière dans l'informatique, donc ça apporte quelque chose. Il y a un autre langage qui apparaît aussi, c'est le langage de ce qu'on pourrait appeler la modernité du commerce, de la publicité, c'est-à-dire une sorte de langue qui est beaucoup plus artificielle. Bon, alors donc on a tout un mix de langues comme ça. Moi, ce que je lis dans ce texte, c'est quelque chose qui est assez monochrome, finalement. Donc je ne sais pas, peut-être que le texte d'origine est beaucoup plus passionnant sur un plan littéraire, je n'en sais rien. Donc c'est pas du tout une atteinte...
Damien qui est traduit, mais effectivement, traduire le napolitain ou trouver une équivalence...
Vu l'accueil qu'il y a, je me dis peut-être que le texte d'origine est beaucoup plus passionnant, je ne sais pas.
Enfin, l'accueil qu'il y a en Italie c'est une chose, mais dans le monde entier, il est forcément traduit et aimé dans ses traductions. Vous avez un sentiment sur cette question Étienne Montetti?
Je pense que les lecteurs et les lectrices donc, ne vont pas chercher aussi loin et que la plongée dans un univers qui, pour des tas de raisons, les berce, les charme, les renvoie effectivement à une période et puis au passage, cette relecture de l'histoire, du destin des hommes, du destin des femmes, je pense suffit largement à combler les lecteurs. Il y a un charme qui opère en dépit de tout, je dirais.
Parce que sur cette époque, en fait, ce n'est pas les années 60, les années 70, ce sont les années 60-70 en Italie.
Bien sûr.
C'est-à-dire, moi je trouve que c'est très localisé, c'est très situé. Il y a assez peu d'universités.
Il n'y a pas de portée universitaire.
Je n'arrive pas à le dire, mais quand même, vous avez compris, dans ce propos. Et au fond, c'est autant d'énigmes autour du succès de ce livre, moi, me semble-t-il.
Pour un Français ou une Française, c'est des choses assez comparables. C'est quand même la société occidentale, l'émancipation, le féminisme, les luttes politiques. Il y a un autre climat, les années de plomb, etc. sont propres à l'Italie. Ça reste quand même le grand mouvement de la société occidentale de l'après-guerre.
Mais il y a quelque chose, par exemple, que je trouve très très italien, parce que ces femmes grandissent dans un quartier populaire de Naples, où se côtoient fascistes, communistes, etc. Et au nom de l'amitié, puisqu'elles connaissent des enfants qui sont originaires des différentes familles. Et au nom de l'amitié, quelqu'un qui se prétend tout à fait d'extrême-gauche peut prendre un travail avec quelqu'un qui est d'une famille anciennement fasciste ou toujours fasciste. Il y a aussi cette notion, que je trouve très très italienne, c'est cette espèce de permanence de la présence fasciste qui va jusqu'aux années 70 et qui vont être impliquées dans les mouvements de l'époque. Moi, je trouve vraiment que c'est très très... cette différence nord-sud, Naples, Florence, Naples, Milan, et quand même, c'est vraiment... Une bipolarité typiquement italienne.
Oui, mais c'est pas une barrière pour son exportation aux États-Unis et en France.
Visiblement,
mais ceux qui l'aiment aiment.
Et c'est la réussite, voilà, d'un livre comme
dans
ça.
Dans le deuxième volume, il y avait ces échappées qui étaient magnifiques sur Ischia, qui est, bon, là aussi c'est très localisé, mais il y avait cette échappée.
Quand on est à Naples, on peut aller vers Ischia.
Oui, mais c'est ça. Mais qui était assez belle d'ailleurs, c'est échappé.
Bon, sur la question de la langue, si nous avons des auditrices et auditeurs qui ont lu Elena Ferrante en italien, ils peuvent répondre à Daniel Martin.
Oui, je serais très très curieux de savoir ça.
Ils nous écrivent sur le site de la dispute franceculture.fr, sur la page Facebook, sur le Twitter de la dispute. Si vous avez des réponses, n'hésitez pas. Celle qui fuit et celle qui reste d'Elena Ferrante est traduite par Elsa Damien, publiée chez Gallimard.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
À suivre dans la dispute, Graham Swift et Édouard Louis. Avant cela, Lucille Como dans le petit salon. Bonsoir, chère Lucine.
Bonsoir, Arnaud.
Ce soir, j'espère que vous n'avez pas oublié votre carte.
Non, une carte de bibliothèque. Puisqu'on va parler de bibliothèque les 14 et 15 janvier prochains, on pourra visiter la salle Labrouste de l'ancienne Bibliothèque nationale. Donc la salle Labrouste ne se situe pas dans une des quatre tours du site François Mitterrand, mais sur le site Richelieu, si dans la rue du même nom, dans le 2e arrondissement de Paris. L'ancienne Bibliothèque nationale a aujourd'hui plus de 150 ans, elle est en travaux depuis 7 ans et ouvre enfin une de ses plus belles salles, désormais dédiée au fonds de l'Institut national d'histoire de l'art, avant une ouverture définitive prévue pour 2020. À cette occasion, le Nouvel Observateur, il y a 2 semaines, a demandé à des artistes et à des créateurs d'imaginer la bibliothèque de leurs rêves, l'occasion de se demander ce qu'est une bonne bibliothèque. Alors à ce jeu ont participé des dessinateurs comme Catherine Meurice ou Mathieu Sapin, des écrivains comme Enrique Villamatas ou Charles Danzig, ou encore des architectes comme Dominique Perrault. On y lit pas mal de réticences, assez classiques, par exemple sous le crayon de Catherine Meurice, pour qui la bibliothèque idéale est dans la nature, ouverte, lumineuse et sensuelle, contre sa réputation de lieu triste, clos et gris, où, je cite, les livres sont aussi moches que l'architecture. Dany Laferrière, quant à lui, imagine une bibliothèque qui n'en est pas vraiment une personnelle, avec des livres de qualité médiocre qu'on pourrait lire depuis sa baignoire grâce à un astucieux système de serviette éponge. Beaucoup évoquent donc des bibliothèques qui ne sont pas des lieux. D'autres sont plus sérieux et évoquent des établissements qui existent bel et bien. Mathieu Sapin dessine successivement la bibliothèque François Mitterrand à Paris où l'on peut tout faire, la Webster Library de Montréal qui est ouverte et gratuite nuit et jour, la bibliothèque municipale de Dijon pour sa chaleur et finalement trouve la bibliothèque idéale dans la dernière case, la bibliothèque de Lisbonne. Enfin, sans surprise, Dominique Perrault livre un de ses premiers croquis de la bibliothèque François Mitterrand avec ses 4 tours en forme de livres ouverts autour d'un jardin en contrebas. Une architecture imposante qui a été et qui est toujours fort critiquée, trop grande, trop intimidante, trop froide, presque carcérale selon certains qui ne comprennent pas par exemple pourquoi le jardin qui se situe en son cœur est hermétiquement clos. J'en fais partie. Le goût de la bibliothèque et la manière dont on se la figure en dit beaucoup sur notre rapport à la lecture et au livre. Pour vous, quelle serait la bibliothèque idéale ?
Ah ben voilà une question. J'espère que vous avez préparé, hein, Daniel Martin.
Alors, effectivement, quand la question m'a été posée, je me suis dit que la bibliothèque idéale, forcément, c'était une bibliothèque qui n'existait pas matériellement. Et j'ai repensé à ce musée imaginaire que c'était forgé Malraux, en puisant des œuvres comme ça dans le monde entier. Et je crois que c'est le musée imaginaire.
Absolument.
Et pour moi, la bibliothèque idéale, c'est effectivement une bibliothèque qui est faite à la fois de livres qu'on a lus, de livres qu'on n'a pas encore lus, de livres qu'on voudrait relire, etc. Donc il y a des sources très différentes. Mais c'est quelque chose qui va exister dans la tête de chacun, peut-être, je ne sais pas. Parce qu'après, c'est difficile d'imposer dans une bibliothèque forcément des différences de choix, de goût, je sais pas. Pour moi, c'est quelque chose qui est immatériel.
Étienne de Montetti.
La bibliothèque idéale, c'est celle de Borges. Mmh. C'est celle qu'il a maintes et maintes fois imaginée dans ses livres. Ça peut être la sienne aussi, d'ailleurs, puisque chacun a une bibliothèque qui lui ressemble peu ou prou. Je suis assez partant, moi, pour une bibliothèque close. Toutes ces idées d'ouverture, me paraissent finalement assez inutiles, parce que dans la bibliothèque, l'évasion se fait par les livres. Et je crois beaucoup, moi, j'ai une vision peut-être un peu janséniste de la lecture, à la plongée du lecteur dans le livre, sans fenêtre, parce que l'évasion se fait par le texte. Et je pense que ça nécessite une sorte de concentration qui est importante, parce que la rencontre entre un lecteur et un livre doit se faire par quelque chose d'assez intime et surtout avec aucune distraction autour. Je suis assez partant pour ces bibliothèques que certains jugeront ennuyeuses ou austères, mais où on peut véritablement s'immerger avec une rencontre inoubliable du lecteur avec le sujet de son livre.
Et vous, Lucine ?
Alors moi, j'ai une pratique totalement étudiante de la bibliothèque et je me demandais, c'est une vraie question, est-ce que des lecteurs assidus vont encore à la bibliothèque ? Est-ce que c'est une pratique, vous qui êtes journaliste littéraire précisément, est-ce que c'est une pratique que vous avez, la bibliothèque ?
Étienne, moi,
est-ce que vous allez à la BNF par exemple de temps en temps ?
Oui, chercher des livres qu'on ne trouve pas. Je pense que les étudiants y vont encore beaucoup.
Oui, ça c'est sûr.
Et puis on voit parfois des tableaux charmants, et peut-être que la réouverture de la bibliothèque Richelieu donnera lieu à ces scènes où des retraités des gens élégants et ou pas très calmes, eh bien vont à la bibliothèque lire la presse ou commander un livre, parce que c'est une pratique quasi sociale et qui est assez sympathique, parce que ça appelle le calme, ça appelle le recueillement, la sagesse, et c'est toujours assez touchant.
Vous allez à la bibliothèque, Daniel Martin ?
Écoutez, non, j'ai très peu de pratique. Je m'intéresse beaucoup au lieu bibliothèque tel qu'on est en train de le concevoir maintenant. Là, je parle de lieu matériel, c'est-à-dire pratiquement à l'inverse de ce que disait Étienne en commençant, c'est-à-dire bibliothèque conçue comme un lieu très très ouvert, c'est-à-dire effectivement on peut aller à la bibliothèque pour lire la presse, on peut aller à la bibliothèque pour parce qu'il y a des ordinateurs à disposition et qu'on peut s'en servir, on peut y aller aussi pour lire des livres, pour en emprunter, etc. Mais cette évolution de la bibliothèque tout de suite comme un lieu ouvert, il y a de très belles réalisations en France et oui, une très belle réalisation, ça je trouve que c'est comme lieu à la fois de passage et de consultation, je trouve que ça, c'est intéressant. Mais ça, c'est de la bibliothèque matérielle. Et la bibliothèque idéale, je trouve, relève d'un autre truc. Une bibliothèque idéale, ça doit changer aussi très régulièrement. Enfin, il n'y a pas toujours les mêmes... Étant donné qu'on change à la fois d'humeur, de point de vue, selon le temps, selon l'âge, une bibliothèque idéale, ça doit être totalement mouvant. Enfin, c'est l'avantage.
Elle doit être vivante, la bibliothèque idéale, quasiment.
Mais par contre, sur cette notion de lecture et de plongée comme ça, là, je serais tout à fait d'accord avec ça. Enfin, une lecture, c'est une lecture. Là, on passe à autre chose.
Mais à propos de plongée, on en revient à la BNF. Je ne sais pas si c'est là que vous avez passé beaucoup de temps. Je parle du site François Mitterrand. Elle n'est pas facile d'accès. Donc, si on arrive déjà à pas se casser la figure en montant les marches sur les dalles, c'est quand même quasiment une épreuve d'y arriver. C'est vraiment, j'avoue que c'est une conception. Dominique Perrault a fait de très très belles réalisations. C'est un beau geste. Mais par contre, pour l'usager, je sais pas quel souvenir vous en avez,
Lucie Comeau. Il faut parcourir des couloirs absolument monstrueux entre les salles. C'est très 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 difficile.
Mais même pour l'accès, pour l'entrée première.
Oui, tout à fait.
Alors qu'à l'inverse, c'est Richelieu.
Ah oui,
je serais content d'y retrouver, d'y retourner. Je me souviens très bien de fin d'après-midi, un peu obscur comme par ces temps d'hiver, et où il y avait simplement la petite lampe jaune de chaque place, et il y avait véritablement quelque chose de monacal, mais vraiment au bon sens du mot, c'est-à-dire des gens plongés dans l'étude, dans la lecture, et peut-être dans le plaisir de la lecture, et ça avait quelque chose de très intimidant, mais également de très entraînant. Parce que justement, on veut finalement rejoindre ces familles comme ça, d'initier à un plaisir exceptionnel qui est la découverte d'un texte. Tolbiac présente beaucoup d'autres avantages de commodité. Hein, je ne vais pas opposer l'ancien merveilleux Richelieu et l'horreur à Tolbiac.
Non.
Mais Richelieu
technologique, c'est
avait beaucoup de charme. Vous nous avez demandé la bibliothèque idéale, et je finis pour moi sur ce point. J'ai quand même eu la pire bibliothèque dans une école de commerce en France que je ne nommerai pas.
Ah bon, dommage.
Où la bibliothèque a été remplacée il y a quelque temps par un autre mot qui est Learning Hub. Je passe sur l'anglicisme, ça n'a aucune importance.
Learning Hub.
Mais surtout, c'est une bibliothèque sans livres, où il y a des tas de prises et des tas d'écrans et peut-être même des livres consultables sur écran. C'est extrêmement fonctionnel, ça permet d'aller visiter l'autre bout du monde par toutes les images que les technologies nous offrent. Mais alors cet aspect bibliothèque qui renvoie quand même au livre, Biblos, et puis ce rendez-vous intime entre une œuvre et une personne, ça je ne l'ai pas vu dans cet endroit qui m'a paru moi le sommet de la modernité la plus inhumaine.
Alors, si vous connaissez cet endroit, vous que nous écoutez, dites-nous c'est qu'on puisse savoir si
c'est Learning Hub
qui a remplacé la bibliothèque. Et la bibliothèque de Clermont-Ferrand, elle est comment, Daniel Martin?
Bien, elle est en projet toujours.
Ouais.
Mais là, il faudrait qu'on consacre une
un petit entière, salon. La prochaine fois,
une heure entière.
Oui, peut-être pas une heure entière. Ou alors à France Bleu Auvergne, si vous voulez.
Elle est en projet depuis quand même de nombreuses
années. Très longtemps.
Années,
hein. Oui.
C'est un feuilleton.
À suivre. Et nous poursuivons cette dispute avec le nouveau roman de Graham Swift, Le Dimanche des Mères, publié chez Gallimard dans une traduction de Marie-Odile Fortier-Mazec. Le Dimanche des Mères, apprend-on dans ce livre, en tout cas c'est là que moi je l'ai appris, ce jour de congé donné annuellement par l'aristocratie britannique à ses domestiques. Donc un jour il faut s'occuper de soi, ce qui ne va pas de soi. En 1924, le Dimanche des Mères tombe le 30 mars et il fait un temps inhabituellement beau.
times are strange. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Time's gone by, seems to be. You could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out. Yeah, you had me hypnotized, yeah. Lost and found and turned around by the fire in your eyes. You made me cry, you told me lies, but I can't stand to say goodbye. Mama, I'm coming home.
Mama, I'm coming home, d'Ozzy Osbourne, pour vous faire plaisir, Daniel Martin. Et peut-être pour entrer dans ce livre, un extrait qui se situe très près du début. Elle le regardait à présent aller et venir à travers la chambre ensoleillée dans le plus simple appareil, à l'exception d'une chevalière en argent. Plus tard dans la vie, et dans la mesure du possible, elle n'emploierait pas volontiers le mot « étalon » pour qualifier un homme. Mais cela lui allait si bien. Il avait 23 ans. Elle, 22. Ils étaient même ce que vous pourriez appeler un pur sang, bien qu'à l'époque, ce mot ne fît pas partie de son vocabulaire, pas plus d'ailleurs que le mot « étalon ». Sa palette verbale n'était pas encore très riche. Pur sang, puisque c'était le lignage et la naissance qui comptaient pour ceux de son espèce, allez savoir pourquoi. On était en mars 1924, on n'était pas en juin, mais on s'y serait cru. Sans doute était-il un peu plus de midi, une fenêtre était grande ouverte. Il traversa, nu, la chambre inondée de soleil, avec la même insouciance que n'importe quel animal nu. Après tout, c'était sa chambre, non ? Libre à lui d'y faire ce que bon lui semblait, sans aucun doute. Elle n'y était jamais entrée, et n'y entrerait plus jamais. Et elle aussi était nue. 30 mars 1924, autrefois, les ombres du treillis de la fenêtre glissaient sur lui tel un feuillage. Il prit un étui à cigarette, un briquet et un petit cendrier d'argent sur la coiffeuse, se retourna, et là, sous un lit de poils noirs, sa bite et ses couilles baignées de soleil pendaient, simple appendice encore gluant. Elle pouvait les regarder à son aise, cela ne le gênait pas. Lui aussi pouvait la regarder, elle était allongée, nue, à l'exception d'une paire, sa seule paire, de boucles d'oreilles de pacotille. Elle n'avait pas remonté le drap, elle avait croisé les mains sous sa nuque pour mieux le voir. Mais lui pouvait la regarder. « Rince-toi l'œil », une expression qui lui vint. Des expressions commençaient à lui venir. « Rince-toi l'œil ». Alors, j'arrête là ma lecture. Qui sont cette femme et cet homme? Quel est leur lien? Quelle est leur relation? On va assez vite le découvrir, Étienne de Montetti.
Mais oui et non, parce que c'est un livre qui est assez difficile à résumer. Et votre extrait est à la fois intéressant, il dit beaucoup de choses de ce qu'il y a dans ce livre, il ne dit pas tout, il peut même en conduire sur des malentendus, notamment par le choix du vocabulaire, mais je crois que c'est le seul moment où ce vocabulaire sexuel est utilisé, de manière aussi crue, notamment.
La page suivante.
Et la page suivante.
Il sera question de chatte, logiquement.
Mais c'est un livre assez étonnant, qui est peut-être l'exact inverse de ce que Elena Ferrante a fait, c'est-à-dire non pas une chronique au long cours avec ses dizaines de personnages, mais une toute petite société qui est contenu dans 150 pages, et pourtant c'est un livre avec énormément de recoins et beaucoup d'histoires contenues dans une seule, et c'est un livre d'une richesse assez inattendue. Pour essayer de résumer, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est domestique dans une famille de l'aristocratie anglaise. Et effectivement, ce jour-là, ce fameux 30 mars, les domestiques ont leur journée pour aller voir leur mère, sauf que Jane, comme on l'appellera, n'a pas de famille, et donc elle va rester dans la propriété. Pourquoi? Parce que toute l'aristocratie du canton se retrouve à une cérémonie de fiançailles, un repas de fiançailles de deux familles du coin qui unissent leurs enfants. Cette jeune fille est la maîtresse du jeune fiancé, qui lui a donné rendez-vous un petit peu avant le déjeuner de fiançailles chez lui, dans la propriété de ses parents, qui est désertée évidemment par tout le monde, que ce soit les domestiques qui ont eu leur journée ou les parents partis à la fameuse réunion. C'est un livre assez inouï parce que ça, c'est le point de départ sociologique d'une bonne société anglaise, assez bien codifiée, de son rapport avec les domestiques. Et puis ce lien assez insolite qui a été noué, qui n'était pas si rare que ça d'ailleurs, entre le jeune homme de la maison et puis la jeune bonne. Peut-être qu'un des basculements du livre, c'est d'ailleurs la scène que vous décrivez, où l'un et l'autre sont nus, donc une scène quasiment édénique ou adamique, où finalement l'un et l'autre sont dévêtus, dépouillés de leurs oripeaux, que sont leurs vêtements et leur raison sociale. Il reste seulement la chevalière du garçon, elle, ses petites boucles d'oreilles de pacotille, mais ça va être une naissance et éventuellement une renaissance. Et dans les pages qui suivent l'extrait que vous avez lu, il y a toute une réflexion sur la semence. Et avec la hantise de la jeune Jay, évidemment, d'être enceinte, notamment après cette relation qui a eu lieu, relation clandestine, puisqu'ils sont dans cette maison déserte. Et en fait, cette semence ne va pas féconder un enfant, elle va féconder Jay à une autre vie. Alors, c'est difficile d'en dire plus, parce que c'est un livre qui fonctionne par révélation, parfois coup de théâtre successif, et il faudrait pas trop l'altérer en dévoilant les histoires, mais une autre jet va naître, se déployer, et le lecteur va découvrir que la toute jeune fille, la jeune bonne, dont la seule envie d'émancipation passait par la lecture, on revient à une bibliothèque d'ailleurs, que ses patrons, les Niven, avaient gentiment mis à sa disposition, et peu à peu, cette jeune fille va prendre toute une ampleur, et on va comprendre et apprendre un certain nombre de choses dans un livre qui est très étonnant et je trouve très réussi.
Daniel Martin, sur le dimanche des mères de Graham Swift.
Alors moi, c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup plu, parce que c'est un livre qui livre autant de...
J'ai peur, vous basquez tellement votre jeu.
Non,
là.
Non, mais qui
livre autant... Vos poker, non, Daniel Martin.
Non, qu'il y ait autant de bonheur, de plaisir, de coups de théâtre. C'est-à-dire, on est quand même dans du roman. Et en même temps, c'est un livre qui laisse plein d'énigmes derrière lui. Donc, c'est un livre qu'on garde en tête. C'est un livre qui est absolument formidable. Alors, on peut faire des tas de parallèles, d'ailleurs, avec Elena Ferrante. Parce que...
qui vont pas être à l'avantage d'Elena Ferrante,
Cette jeune femme, effectivement, elle va se réaliser en devenant écrivain. Je pense que ça, on peut le dire sans problème. Bah, si, quand même.
Oui, non, c'est vous important. L'avez dit, donc
c'est que, fait. Parce que là, la manière dont elle est sur ce lit à regarder cet homme, elle l'écrit déjà, enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a tout un rapport au social sur des décennies, parce que quand elle relate tout ça, elle est censée être très âgée. Donc il y a tout un regard sur le siècle avec, effectivement... Alors, je vois que sur le quatrième de couverture, il est fait référence à Downton Abbey.
Je n'ai jamais les quatrièmes de couverture.
Non, mais c'est extraordinaire, parce que je trouve que c'est un leurre, si vous voulez. Oui. Il ne faut pas avoir...
Une version féministe de Cendrillon à l'époque de Downton Abbey, d'Agri, de New York Times.
On sait que Downton Abbey,
effectivement... J'ai raison de ne pas lire les quatrièmes de couverture.
Les amours en Scylla existent, mais ce genre de description assez crue n'existe pas du tout. Enfin, Downton Abbey, c'est tout à fait autre chose. Moi, j'étais comme énormément de gens, j'ai adoré cette série, j'ai regardé ça, mais enfin bon, ça a un côté roman rose qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir avec ce livre, qui est absolument vraiment. Par exemple, sur cette notion de la journée des mères, presque dans la fin du livre, il y a des choses comme ça qui sont écrites. Aurait-elle fait ce qu'elle venait de faire aujourd'hui si elle avait eu une mère chez laquelle se rendre? Aurait-elle eu la vie qu'elle ne savait pas encore qu'elle aurait? Sa mère aurait-elle pu savoir, en faisant ce choix terrible, à quel point elle l'avait comblé? C'est-à-dire que cette mère qu'elle n'a pas, en fait, c'est une mère qui l'a complètement rejetée. Et je veux dire, de cette idée... que quelqu'un puisse faire d'un inconvénient un atout. Et après, c'est des choses comme ça que j'aime énormément dans ce livre, c'est-à-dire qu'on peut tourner ça un peu comme on veut. Elle dit, comment peut-on devenir quelqu'un si l'on n'a pas d'abord été personne? Ça participe complètement à l'énigme de ce livre. Et donc, plus on avance, plus Joseph Conrad est présent. Et qu'est-ce que Joseph Conrad écrit? Comment il écrit? Comment cette jeune servante, quand elle lit ses premières nouvelles de Conrad, se dit « Ah, il me semble que c'est un peu plus important que ce que je dis David. » Enfin, il y a des rencontres comme ça qui sont formidables. Et donc, ça, déjà, j'ai rouvert du Conrad, d'ailleurs, à la suite de ça. Et je trouve que c'est un vrai bonheur de livre, voilà.
Et c'est même une prouesse, parce qu'encore une fois, c'est un livre très très court, dans lequel beaucoup de choses sont suggérées ou à peine révélées, mais permettant au lecteur quand même d'appréhender l'ampleur de ce qui est dit. Il y a des scènes magnifiques. Cette scène centrale du nu, de la visite de la maison, de la découverte de la maison, peut-être même de la conquête, d'une certaine manière, de l'espace, par cette jeune fille nue dans une maison entièrement vide et qui va découvrir la bibliothèque de l'endroit où elle est. C'est une scène qui, sur le plan littéraire, est absolument magnifique. Il y a une très très belle lumière. Il y a évidemment un érotisme suggéré à de nombreux passages. Et puis, qui en fait une sorte de fable sur l'éclosion d'une jeune fille à un temps, on l'a peut-être pas assez dit, qui est un temps du bouleversement du monde. Là aussi, c'est le temps de l'émancipation. Oui, 1924, c'est la vieille société anglaise pense ses plaies. Les familles sont, je sais pas si on dit une famille orpheline, mais elles sont privées des garçons qui sont restés, malheureusement, sur le front de la Somme. Et donc, c'est une vieille société qui enterre ses morts et qui finalement...
Qui manque de 109.
Et les enfants morts, là, sont extrêmement, extrêmement présents.
Et ils sont extrêmement présents. Et on vit avec ses morts. Et voilà, une jeune fille sortie, effectivement, de nulle part. Elle s'appelle Fairchild et c'est une enfant trouvée. Et c'est elle qui va prendre le relais pour une nouvelle société. Et tout ça est à la fois suggéré et décrit avec beaucoup de finesse.
Mais,
Daniel Martin.
Il me semble que la traduction est assez remarquable. Parce que, par exemple, sur cette scène que... il y a un moment où cette jeune femme est nue dans cette immense maison qui n'est pas la maison de ses maîtres et elle explore cette maison. Elle va aller à la cuisine, elle va faire un repas, etc. Mais alors, ce qui est absolument formidable au niveau des sens, c'est que Swift arrive à donner la chaleur de son corps et pratiquement son odeur, enfin cette odeur d'après l'amour, et en même temps la fraîcheur des dalles, la fraîcheur de l'air, la lumière qui est à l'extérieur, et tout ça, il arrive à rendre tout ça, et ce passage est absolument magnifique, magnifique.
Non, mais il y a une précision de l'écriture, malentendu dans le passage où vous avez fait référence, on a la chevalière et les boucles d'oreilles de pacotille, enfin il y a vraiment une science quand même du détail et de l'effet de précision, de l'effet de loupe qui va nous donner justement toutes
et
ces sensations.
Et aucun surdiscours, rien n'est surligné, rien n'est indiqué. Or, tout ce que vous disiez, là, se produit, c'est-à-dire la bascule du temps se produit complètement.
Une dernière question, peut-être, avant de refermer la page consacrée à Graham Swift. Alors moi, je ne connaissais pas cet auteur. Vous avez lu ses livres précédents, quelques-uns publiés en France. Ils sont de cette qualité-là, parce que ça donne envie d'en lire d'autres, du coup, oui, Daniel Martin.
Je me souviens d'un livre qui s'appelait La dernière tournée, il y a très longtemps, qui se passe dans un milieu totalement différent. Mais c'est pas un auteur qui écrit énormément, j'ai l'impression.
Enfin, en tout cas, en France, il y a visiblement 2, 4, 6, 7, 7 ou 8 ouvrages en termes de nouvelles.
Sur une trentaine d'années.
Alors que c'est un auteur qui a une soixantaine d'années, je crois. Donc, effectivement, La dernière tournée, c'est l'un des titres. Moi, vous le connaissiez,
vous, Étienne Lamentetti? Non, je l'ai découvert. Peut-être que la couverture du livre, qui est un véritable tableau de maître, attire l'attention. Et c'est une découverte, c'est les plus jolies découvertes, sans du tout de référence. Ouais. On prend le livre, on l'ouvre, après tout, on peut passer tout à fait à côté. Et puis là, j'ai plongé dedans et j'ai vraiment connu un moment de grand bonheur.
Je préfère nettement cette ligne. J'ai ce défaut de ne pas beaucoup aimer les ouvrages de Ian McEwan.
On peut avoir quelques points de désaccord, Daniel Martin, pardon.
Je préfère nettement cette
gamme. Non, mais j'aime infiniment Graham Swift. Je vous remercie de cette découverte, Daniel Martin. Et puis, effectivement, saluons la traduction de Marie-Odile Fortier-Mazec, Le Dimanche des Mères.
Rendons à César.
C'est Étienne de Montetti qui a proposé ce livre à notre sommaire. Merci, Étienne de Montetti. Et donc, Daniel Martin, qui connaissait déjà Graham Swift, est heureux d'avoir lu celui-ci.
Tout à fait.
Oui. Très bien. Merci Étienne. Alors, vous voyez, j'avais fait un lapsus, mais il était en fait assez bon. Le livre est publié chez Gallimard.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Et nous poursuivons cette dispute consacrée le vendredi soir à la littérature et toujours avec un livre qui vient de paraître en édition de poche. Ce soir, il s'agit de Histoire de la violence d'Édouard Louis qui paraît en Point Seuil, un livre dont nous avions parlé à sa sortie il y a tout juste un an, un livre alors très attendu, celui d'un jeune homme de 23 ou 24 ans dont le premier roman, En finir avec Eddie Bengel, avait été la grande sensation de la rentrée littéraire 2014. Ce retour avait été aussi celui du bâton, une partie de la presse se livrant à une critique violente, elle aussi, de ses livres, comme le fit d'ailleurs Laurent Nunez à ce micro en janvier dernier. Words like knives and swords and weapons that you use against me. You have knocked me off my feet again, got me feeling like a nothing. You, with your voice like nails on a chalkboard, calling me out when I'm wounded. You, picking on the weaker man. Well, you can take me down with just one single blow. But you don't know what you don't know. Someday I'll be living in a big old city, and all you're ever gonna be is mean. Someday I'll be big enough so you can't hit me, and all you're ever gonna be is mean. Why you gotta be so mean? Après Graham Swift, Taylor Swift, effectivement, comme choix musical. Cette chanson choisie pour vous, Daniel Martin, puisque Taylor Swift y raconte le harcèlement scolaire, mais aussi le cercle vicieux entre le harcelé et le harceleur. Daniel Martin, vous étiez face à Laurent Nunez lorsque nous avons parlé du livre d'Edouard Louis, Histoire de la violence, c'était en janvier dernier, donc 2016. Quel est votre regard sur ce livre, Daniel ?
Écoutez, moi j'ai proposé ce livre quand il est reparé en poche, parce que je trouve que la réparation en poche permet comme ça de lire les choses à distance, de se détacher de l'humeur du moment et tout ça. Et j'ai toujours défendu Édouard Louis, même s'il y a des, je reconnais des faiblesses, même si certaines fois je suis pas d'accord avec lui. Je trouve que c'est un auteur qui est à la fois très jeune et très talentueux, qu'on attaque extrêmement violemment à ses deux titres d'ailleurs. Et au fond, il me semble qu'il est intéressant de le lire en étant détaché des polémiques. Alors, l'apparition en poche, c'est une très belle occasion.
Parce qu'un auditeur, évidemment, attentif, m'a déjà dit, communiqué son étonnement, de dire, vous parlez de poche, mais alors vous en avez déjà parlé il y a un an, il faudrait mieux parler d'un livre dont vous n'aviez pas parlé avant. Alors, c'est moi, pour cette raison-là, Daniel Martin.
Moi, il me semble qu'Edouard Louis est toujours...
Le lire dépassionné.
A toujours été très mal lu. Alors, il y a à la fois son origine sociale, il y a à la fois son parcours assez fulgurant, parce que c'est quelqu'un qui passe du quart monde au très beau quartier de Paris, intellectuel. C'est quelqu'un qui passe d'un milieu qui est relativement inculte à l'écriture de livres. C'est quelqu'un qui provoque, c'est quelqu'un qui dérange, c'est quelqu'un, en plus, on ne peut pas faire l'impasse, qui a des amis qui sont parfois un peu encombrants. Par exemple, dans l'histoire de la violence, ces deux grands amis sont... ça fait partie d'une des faiblesses du livre. Je trouve qu'ils reviennent très régulièrement, comme ça, ça apaise un peu. Mais je trouve que le propos de ce jeune homme est tout à fait pertinent. Et puis, j'attends beaucoup de lui. Je trouve que si on en avait un peu plus d'auteurs comme ça, dérangeants, qui ont moins de 25 ans, eh bien, ça laisse des perspectives. Bien. Et puis, à la limite, être désaccord avec un auteur, ça peut être très enrichissant plutôt que d'être simplement agaçant. Et un auteur à 23 ans, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de le condamner. Et effectivement, nous avons parlé de nos désaccords là-dessus avec
Laurent Nunez.
Et je le trouvais, et je crois que j'avais dit à l'époque, assez injuste. Voilà, c'est un livre de poche, réédition, redonnons à lire et à lire dans une autre temporalité. Voilà.
Alors du coup, on n'a même pas dit de quoi il s'agissait avec Histoire de la violence. Il s'agit d'une rencontre vécue par Édouard Louis, une nuit avec un amant qui finira mal, qui finira par un viol, par une agression, par un vol aussi, et puis ensuite Édouard Louis portant plainte au commissariat, ce jeune amant d'un soir est d'origine maghrébine, et se questionnant sur effectivement la violence sociale, les rapports de classe, toute l'école effectivement Bourdieu, et c'est ce que critiquait Laurent Nunez. C'est pas la peine d'avoir lu Bourdieu pour finir par l'employé aussi mal. Vous voulez rajouter quelque chose sur le récit, mais Étienne de Montetti n'a pas encore pris la parole. Hein.
Alors, Étienne.
Bon, merci Daniel Martin.
Oui, si Édouard Louis est si maltraité, peut-être que c'est parce que voilà quelqu'un qui mélange beaucoup, voire exclusivement les livres qu'il écrit avec sa propre personne. Voilà quelqu'un à qui on pourrait donner le conseil suivant, faites comme Elena Ferrante, publiez les livres que vous souhaitez publier, mais publiez-les dans l'anonymat le plus total et n'apparaissez pas au devant de la scène lorsque vous publiez un livre dans ce mélange, cette confusion entre une œuvre et votre propre personne, en mélangeant les deux, et peut-être aussi en oubliant, si vous êtes un écrivain, la part de vous qui est celle des sciences humaines, et donc, dans votre récit, peut-être éviter cette surexposition, effectivement, de l'analyse, ou lorsque la victime, je ne sais pas si c'est Édouard Louis ou un personnage inventé par Édouard Louis qui s'appelle Édouard Louis, qui est violé, trouve encore le temps dans son malheur, dans ce crime, le temps de réfléchir à toute l'histoire de la colonisation en Afrique du Nord. Quand il se rend au commissariat, une réflexion sur la police et la méchanceté de la police qui est, selon lui, raciste et probablement homophobe. Et toute cette réflexion sur plomb du récit, évidemment, je trouve l'alourdit, l'affaiblit énormément. Je passe sur la vision du Nord, là encore, qui je trouve est un peu caricatural. Et il y a notamment, j'ai souvenir de dialogue sur la sœur du narrateur, où on est plutôt chez Danny Boone que chez Michel Foucault. Mais là aussi, ça véhicule toute la réflexion idéologique d'Édouard Louis. Voilà, donc, qu'il publie les livres, il a le droit de le faire, et peut-être qu'il a droit à notre indulgence, mais peut-être qu'il doit aussi se mettre en retrait de ses livres. Voilà, vous l'avez compris, j'avais pas aimé la sortie en librairie, j'aime pas davantage le livre de poche. Et puis je vais m'arrêter là parce que les critiques qui n'ont pas aimé ce livre ont été abondamment insultées, notamment sur les réseaux sociaux, par toute une petite bande des avocats d'Édouard Louis, ou peut-être même par Édouard Louis lui-même. Et donc, pour éviter que dans les heures qui viennent, je me retrouve à nouveau cloué au pilori par ces gens, je n'en dirai pas plus.
Et Daniel Martin avait envie d'ajouter quelque chose, lui, ça tombe bien.
Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que dans ce livre, effectivement, Étienne, c'est vrai que sur un plan littéraire, il y a des faiblesses. Bon, par exemple, l'intervention de la sœur, qui est un dispositif qui, moi, me paraît très intéressant. Donc, la sœur, qui est la sœur de ce milieu carmonde du Nord, ça me semble très intéressant parce que elle retranscrit tout ça à sa façon. Ça me semble intéressant.
On pourrait voir comment ce serait traduit en italien.
Et peut-être
en sarde.
Ah mais ça pose la question. Mais c'est comment on joue sur les différents livres là.
Non mais
comment on traduit.
Mais il est d'ailleurs traduit en.
Je sais qu'il est traduit dans de nombreux pays.
Mais si vous voulez, bon, il y a des faiblesses, mais je trouve que sur le propos, c'est-à-dire la redistribution que la société organise, une sorte de redistribution de la violence dans les basses classes, je trouve que ça c'est un propos intéressant et c'est un propos que je retrouve dans le dernier Ken Loach, qui est un film qui m'a énormément touché et plu. Et
comme ça, on est deux au moins à ce micro parce que j'ai dit ça sous la risée de mes camarades, donc je vous rejoins.
Oui, mais il faut m'appeler immédiatement dans ces cas-là, parce que le Ken Loach, je trouve, au niveau effectivement de la complicité et de tout ça, je trouve ce film absolument passionnant. Et je trouve qu'il y a des questions comme ça qui sont en germe chez Édouard Louis. Et une fois de plus, je dis, même si ça n'est pas parfait, prenons le temps de lire ça en dehors de tous les propos. Je trouve que c'est très bien. Étienne a un propos mesuré par rapport à ça. Il n'aime pas ce livre pour un certain nombre de raisons, mais au fond, il condamne pas ce livre. Je trouve ça bien. Je trouve qu'on l'a beaucoup.
Parce qu'il a peur de se faire insulter sur les réseaux sociaux.
Non, j'ai pas souvenir que c'était. J'ai souvenir que ça a été un livre controversé. J'ai pas souvenir que c'était si violent que ça.
Ça a été très. Je trouve que ça a été très.
Écoutez,
très
il m'a semblé voir une presse même assez bienveillante parce
partagée.
Que
partagée.
L'homme. Oui, mais pas souvenir de violence.
Je trouve que ça mérite. Édouard Louis mérite qu'on le lise et de se faire son avis.
Bien sûr.
Tous les livres méritent ça.
Il faut qu'il laisse chacun avoir son avis sans intervenir de manière trop assidue en devant de son œuvre, qui est un risque, surtout dans le monde médiatique où l'auteur est invité avant même qu'on ait lu son livre.
Effectivement, il a un âge où il est effectivement concerné par ces réseaux sociaux. Donc c'est un auteur qui est beaucoup plus sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, etc. Que d'autres auteurs. Mais
se mettre un peu plus en retrait dans ses propres livres, est-ce que c'est quelque chose qui peut être...
Surtout pour ne pas commenter ses propres livres.
Il me semble que c'est aussi un auteur en devenir qui a échappé... c'est quand même quelqu'un qui est sorti de l'anonymat très brutalement, qui a connu un énorme succès. Je veux dire, c'est très déstabilisant chez quelqu'un de très jeune. Au fond, il s'en sort pas si mal. C'est quelqu'un qui va maturer, qui va évoluer. Laissons-lui avancer d'autres livres, voir ce qu'il va faire. Je ne sais pas du tout ce qu'il va faire.
On va lui donner un conseil, c'est de lire Graham Swift. Où des tas de questions, notamment sociales, sociétales, sont exposées de manière très riche, très profonde, et il n'y a pas un gramme de sciences humaines ou d'idéologie.
Mais là, nous sommes entièrement d'accord.
Bon, Daniel. Et vous pouvez lire chez Point en édition de poche, donc Histoire de la violence d'Édouard Louis. C'est l'heure du jeu de la dispute et on commence par un rappel du jeu d'hier au soir, Lucille Comeau, pour en connaître la réponse et d'abord la question, rappelons-la.
Dans son salon de 1845, Baudelaire décrit ainsi un tableau de Delacroix. C'est une tête de femme renversée dans un cadre très étroit. De quel tableau s'agit-il? Et la réponse est la Madeleine dans le désert.
À gagner ce soir des invitations pour l'exposition Corps Rebelle jusqu'au 5 mars au musée des Confluences à Lyon. Quelle est la question?
Dans l'exposition Corps Rebelle au musée des Confluences, on peut découvrir 8 versions d'une même pièce emblématique de la danse. De quelle pièce s'agit-il?
Et votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfranceculture@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez également réécouter ou podcaster nos émissions, un site sur lequel vous pouvez aussi nous écrire. Je rappelle qu'il y a un podcast aussi séparément pour le petit salon de Lucille Comeau. On vous donne rendez-vous lundi à 21h pour une dispute consacrée au spectacle vivant. Nous serons en compagnie d'Anna Segalevitch et René Solis. À notre affiche, Le Temps et la Chambre de Boto Strauch, mise en scène par Alain Françon, en ce moment au Théâtre de la Colline à Paris et en tournée. Hôtel Feydeau, mise en scène de Georges Lavaudant à l'Odéon, Théâtre de l'Europe, puis également en tournée. On évoquera aussi Karamazov, d'après les frères Karamazov de Dostoïevski, mise en scène Jean Bellorini au Théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis, également tournée. Et puis La mort du poète, c'est un spectacle autour d'œuvres de Robert Schumann dirigé par Jérôme Pernaud. C'est à la salle Cortot. Lucille Comeau vous passera un coup de fil à l'écrivain et metteur en scène Valère Novarina pour conclure cette émission de lundi. D'ici là, votre programme se poursuivra sur France Culture à 22h15, discussion du soir et dans quelques instants, le journal de la rédaction.